Salut Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
En parcourant le paysage de nos bocages ou des plaines toircaises et niortaises, on peut voir de jolis maillages jaunes, intenses et lumineux, qui se complètent bien avec la verdure du printemps. C'est vrai que ça fait un joli tableau.
Et soleil d'ailleurs, ça y est.
Ouais, c'est joli, c'est utile. Je mettrai une toute petite réserve, Ludo. Ça sent pas toujours franchement bon.
C'est vrai. Et on parle bien du colza, hein, ce joli jaune, puisque le colza est en floraison. Début, milieu ou la fin, dans notre bocage, c'est plutôt la fin, selon les variétés. Mais cela les rend visibles à des centaines de mètres pour vos balades notamment. Le colza, c'est donc un croisement naturel entre le chou et une navette. Alors aujourd'hui, on parlera de colza oléagineux, puisqu'il existe aussi du colza fourragé, destiné, lui, à être pâturé ou récolté pour les animaux.
Colza oléagineux, pour l'huile donc essentiellement, on le sème quand, récolte quand, pesticides ou non, dis-nous tout Ludo.
Alors les colzas que vous voyez en ce moment, on les sème vers le 15 août, idéalement avant une pluie pour réussir la levée rapide, ça c'est un point délicat. Le colza va rester environ 10 mois dans le champ pour être moissonné à partir de fin juin, donc bientôt, avec un rendement moyen observé de 35 quintaux à l'hectare en système conventionnel. Donc il se conduit aussi en bio. Et alors pesticides, je dirais oui, hein, seulement en conventionnel bien sûr. Et c'est un des points faibles du colza. Avec les engrais, hein, bien sûr. C'est une excellente plante pour structurer la terre, c'est vrai. Et elle casse les cycles des maladies, par exemple sur les céréales. Donc aujourd'hui, le colza oléagineux, hein, sert pour l'huile alimentaire, bien sûr. Le tourteau de colza que l'on donne aux animaux pour la protéine, pour les biocarburants aussi, et enfin il sert bien sûr à faire du miel.
Alors son point faible donc, ce sont les pesticides et les engrais. Il n'est pas si bienfaiteur donc que cela, malgré ses atouts et son large éventail d'utilisation, comme tu viens de nous le dire.
Je dirais qu'il n'est pas parfait.
qu'il est.
Bien sûr, surtout si on traite en fait sans raisonnement. Pour la culture du colza en conventionnel, on utilise un herbicide, un ou deux fongicides et un ou deux insecticides. Mais plusieurs choses se développent pour limiter ces pulvérisations, comme l'association de plantes par exemple, ou la mise en place de bioagresseurs. Donc rien de parfait. Mais pour le côté positif, le colza oléagineux limite les importations d'huile de palme, par exemple, qui elles sont compétitives, mais contribuent à la déforestation et au réchauffement climatique.
Et les pesticides pour les abeilles?
Et voilà, les abeilles et les autres pollinisateurs hein, d'ailleurs, qui butinent énormément les fleurs de colza. Alors, pour limiter l'impact des pesticides, l'arrêté abeille tolère les traitements 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures maximum après. On est donc sur une plage horaire de 5 heures et sans contrainte horaire si les températures sont en dessous des 12 degrés. Donc l'argument en fait est de limiter le travail de nuit pour les agriculteurs. Mais les apiculteurs, eux, sont assez peu satisfaits de cet arrêté, pas assez contraignant par rapport à la vie des abeilles.
Et peut-on quand même avoir du miel de colza?
Vous en trouverez facilement, souvent sous la dénomination d'ailleurs miel de colza, miel de printemps ou miel toute fleur, puisque le miel de colza est souvent mélangé pour l'adoucir et les abeilles peuvent butiner plusieurs fleurs différentes en bordure de parcelles.
Alors pourquoi les abeilles l'adorent malgré sa mauvaise odeur?
Oui, on dit souvent qu'il pue. Rappelez-vous, il est croisé du chou en fait. En floraison, cela libère une odeur pas forcément agréable. Ajouter à cela des traitements chimiques et le cocktail, je dirais qu'il n'est pas terrible. Mais il y a un copain, Chris, qui me dit que lui, quand il roule en voiture ou en moto à travers notre bocage, et je sais qu'il nous écoute, lui, il aime cette odeur. Donc je dirais bravo à lui.
Il y a toujours une exception qui confirme la règle. On est le colza après cet hiver humide.
Alors comme presque toutes les céréales d'hiver, chez nous, dans notre bocage, il a beaucoup souffert. Les parcelles saines ou drainées sont, j'irais, plutôt belles. Mais pour les autres, les dégâts sont importants. Vous avez vu passer le colza par un état végétatif, rouge violacé cet hiver, asphyxié par les excès d'eau. Il a pourri et désormais, dans certaines parcelles, vous voyez de grandes vagues en fait. Des zones sans rien, le colza a disparu, puis de nouveau du colza. Cela va faire chuter la moyenne des rendements et les décisions de faire une culture de printemps ou non vont pouvoir désormais se prendre avec le retour du soleil. Nous allons pouvoir retourner dans les parcelles, mais il n'y a pas que les colzas qui ont souffert. Il y a aussi les blés, les céréales, globalement. Et cela fait beaucoup de surface au final. Et on ne pourra pas fournir partout au printemps, très clairement. Et il y a ensuite 2 autres éléments qui rentrent en compte pour décider de refaire une culture avec un potentiel limité. Le premier, c'est le prix de vente. Et en ce moment, le colza est autour des 450 euros tonne. Il se défend plutôt bien, en fait, très concrètement, sans atteindre forcément les records de prix qu'on a eu en 2021 et 2022. Mais ces copains que l'on pourrait semer au printemps pour les remplacer, comme le maïs et le tournesol par exemple, ne sont pas des denrées très recherchées en ce moment. Le maïs était à un niveau de prix bien inférieur aux années précédentes, tout comme le tournesol, qui lui en plus est compliqué à réussir autour de la levée. Même avec un rendement plus que moyen en fait, le colza peut donc être une culture au moins aussi rentable qu'une culture de printemps qui le remplacerait.
Et le deuxième élément, Ludo, alors, qui peut aider à la décision?
Eh bien, ce sont les assurances. Certains sont assurés pour les risques climatiques. Les experts sont passés et ont rendu leurs estimations. Les agriculteurs ont fait leurs calculs, en fait, et laissent la culture en place, colza ou blé cette année, hein, puisqu'ils ne gagneront rien de plus à travailler plus au printemps. Et puis, il y a forcément la peur. À travers les discussions que je peux avoir, à travers la campagne, une des choses qui revient souvent, c'est la peur d'avoir autant de sec que l'on a eu d'eau. Une impression qui se dégage, c'est que les agriculteurs n'ont jamais autant travaillé avec le risque climatique et l'anxiété que cela peut générer. Sujet très présent aussi dans les médias.
Mais comme tu le dis toujours, les agriculteurs, l'agriculture, c'est s'adapter.
C'est s'adapter, on travaille avec le vivant, forcément on prend des risques.
Le soleil brille pour tout le monde des dos alors.
Oui. Et je dirais, pour compenser cette odeur assez désagréable de colza, à part crise bien sûr, allez sentir, allez vous promener dans les bois, il y a de très jolies jacinthes en ce moment, et qui sont avec cette jolie couleur violette cette fois.
Et tu l'as dit, chacun voit midi
à sa porte. Et le soleil brille pour tout le monde, Jacqueline.
On essaiera, David, de trouver une jolie chanson ensoleillée, parce qu'on est content qu'il soit revenu. Hein. Allez.
Eh ben tiens, Jacqueline, une petite chanson où on parle de soleil. Je veux du soleil, au petit bonheur, pour terminer la traversion. Ça, j'ai dit, attention, colline.
La citadelle, je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpins, je les soleil, je les soleil. On oublie que l'on est resté des mondes bien au fond de nos abris.